Bonjour, c'est José ou Ancio Ganan. Le texte que je vais vous lire n'est pas un satsang. Alors, je vais lui mettre une petite musique d'ambiance. Voilà. Le titre de ce texte est « La connaissance et les connaissances ». Qu'est-ce que la connaissance spirituellement ? Est-elle la somme de choses apprises ? Est-elle l'instruction, le savoir ? Évidemment, non. La vraie connaissance spirituelle n'est pas celle que vous trouvez dans les livres. Aussi sacré soit-il, pas plus que celle des temples. Ce qui ne signifie pas que les connaissances qu'il y a dans les livres sacrés soient erronées, ni que dans des temples il n'y ait pas de choses vraies. Mais la connaissance n'est pas quelque chose que l'on peut apprendre, exprimer. C'est un état de conscience. C'est plus dans le Eureka que dans l'apprentissage. Alors, vient une citation du Tao Te Ching. Ouvrez les guillemets. « Ce qui est incomplet deviendra entier. Ce qui est courbé se redressera. Ce qui est vide se remplira. Ce qui est vieux rajeunira. Avec peu de connaissances, on gagne la paix du Tao. Avec beaucoup de savoir, au pluriel, on s'égare dans la confusion. C'est à cause de ça que le sage reste dans l'unité et qu'il est un modèle. » Donc Lao Tzu, Tao Te Ching, un extrait du chapitre 22. Un autre extrait du Tao Te Ching, ouvrez les guillemets, les connaissances apprises et l'intelligence ne sont pour le Tao que des fleurs sans parfum. Elles sont souvent source d'erreurs. C'est pourquoi le sage puise au puits du Tao sans s'arrêter aux apparences. Il contemple le fruit plutôt que la fleur. Il ignore l'une et cueille l'autre. Lao Tzu dans le Tao Te Ching, extrait du chapitre 23. Alors, des chapitres dans le Tao Te Ching, ce sont des aphorismes, hein, des ensembles de phrases, c'est très court. Prenez par exemple une voie spirituelle très honorable, comme le bouddhisme, en tout cas très honorée. Il n'y a pas un bouddhisme, ça n'existe pas, mais il y a une multitude de bouddhismes différents, suivant qu'ils soient indiens, tibétains, japonais, chinois, vietnamiens, américains, français, etc. De toute façon, le bouddhisme nie l'existence de l'âme, lui préférant un agrégat de sept éléments impermanents et interdépendants formant l'être. Pourtant, le bouddhisme croit que l'esprit, qui est d'ordinaire lié au corps physique, peut s'en détacher dans les dhyanas, c'est-à-dire les méditations profondes, et aller jusqu'au nirvana, et jusqu'au plus puissant des sept nirvanas, qui est le nirvikalpa samadhi. Le nirvikalpa samadhi apporte à celui qui le vit, l'éveil des Bouddhas, pas l'éveil comme on l'entend souvent en Occident, on s'éveille à quelque chose, on se réveille de notre torpeur, de notre illusion. C'est bien, mais ce n'est pas l'éveil. C'est juste un réveil spirituel. Ce n'est pas l'éveil. Des Bouddhas, il n'y en a pas tous les jours, je veux dire. Chaque personne qui se dit « mais la vie est injuste, les choses sont plus intérieures que ça et... » qui ouvre les yeux sur sa condition d'homme et son impermanence, il n'est pas un éveillé. Ça serait trop simple. Surtout que l'éveil n'est pas un but en soi. Le but, c'est la libération. Vient un extrait du livre de la voix. Ouvrez les guillemets. Le samadhi est Satchitananda, le royaume dont le Christ parlait. Bhakti Marga, Livre 2, chapitre 5, verset 14. Il existe là une incohérence, ou tout au moins un paradoxe. Comment, sans croire en l'existence de l'âme, transcendant l'existence du corps physique, peut-on en même temps dire qu'un des sept éléments formant l'être se détache des autres et connaît le nirvana sur la route de l'éveil? Cet apparent paradoxe s'explique par une simple question de vocabulaire. Le mot « âme » est remplacé par celui d'esprit. Les bouddhistes croient que l'esprit ou le mental est un sixième sens, ou manas, indépendant du cerveau, de telle sorte que si on transplantait deux cerveaux d'une personne à une autre, chacun resterait lui. Le Dalai Lama dit que le niveau de conscience le plus élevé échappe au support matériel. La conscience est indépendante des particules physiques. Cette description ressemble quand même à celle que l'on pourrait donner de l'âme. Comment expliquer le samsara, les incarnations multiples, en niant la transcendance d'une partie des sept constituants de l'être humain ? Si ces sept agrégats sont bien, comme le dit le bouddhisme, impermanents, indissociables et interdépendants, comment justifier que l'esprit puisse quitter le corps seul pour aller s'incarner ailleurs et poursuivre sa route vers la libération? Le bouddhisme est une école spirituelle attachée à des théories et à des choses écrites dans des livres. Il est pourtant plus simple de réaliser la pleine conscience avec cette juste vue si chère au bouddhisme, donnée par la fréquentation du centre de soi. Le bouddhisme se sert de concepts figés sur des pages et des pages pour tout expliquer et encadrer une pratique dont le but n'est pas très lisible à cause de tous ces paradoxes et incohérences. Les Écritures nous parlent de deux types de connaissances, para et apara. Ce concept védique désigne la connaissance du monde phénoménal, des choses que l'on voit, que l'on touche, que nos sens perçoivent sous le nom de apara. A-P-A-R-A. Celui du domaine subtil de la spiritualité est nommé para, P-A-R-A. Le mot connaissance non apprise désigne les choses de la spiritualité vraie. C'est seulement para qui peut conduire à la réalisation de soi sur le plan spirituel. Alors sur le plan humain, intellectuel, universitaire, ce qui est très bien, hein. C'est pas la même chose, mais c'est très bien aussi. C'est autre chose. La connaissance dont il est question sur la voie est la connaissance révélée, venue du plus profond grâce à l'observance de l'agya et à la pratique des trois piliers. C'est là où se trompent les tenants du jnana yoga, qui pensent que c'est un yoga qui a dans sa sadhana, dans sa pratique, la lecture et l'étude des textes sacrés. C'est une erreur de conception, puisque la connaissance, la jnana, n'est pas du tout celle que l'on... On la trouve décrite dans les livres, les Védas et les Upanishads, par exemple. Bhagavad Gita, on la trouve décrite dans ces livres, mais on ne la trouve pas dans ces livres. On trouve sa description, pas sa réalisation. Hein. La connaissance mystique, c'est une réalisation. Ce n'est pas un apprentissage qui passe par la lecture. Donc le Jnana Yoga n'est pas un yoga dans lequel, normalement, à l'origine du temps de Bouddha, par exemple, de Krishna, d'Arjuna et tous leurs frères disciples, c'est pas quelque chose qui était dans les habitudes. Les hindouistes, oui, hein, mais Krishna n'était pas hindouiste. On l'a forcé à être hindouiste après, en mettant son enseignement de force dans le Mahabharata, mais Krishna... C'est un surnom, Krishna, hein, c'est pas son nom. Son nom, on ne le connaît pas. Krishna n'était pas hindouiste. Pas plus que Jésus n'était chrétien ou Lao Tzu taoïste. Vous pouvez passer toute votre vie à lire tous les écrits bouddhistes, hein, de toutes les différentes écoles bouddhistes, sans avancer sur la route de la réalisation. Vous serez un docteur de la foi, mais pas quelqu'un de réalisé. Les enseignements tournent sur eux-mêmes. Et on se perd à ces jeux dignes de la Torah et de la Kabbale. Les écrits, s'ils sont intéressants, passionnants et amusants, et éclairants et inspirants, les écrits ne suffisent pas. Le bouddhisme est fondé sur le socle de l'éveil officiellement, hein, vécu par Sri Gautama, qui n'a pas connu l'éveil en passant sa vie à lire. Il s'est assis sous son figuier. Il est entré en méditation profonde, dhyana, jusqu'au Nirvikalpa Samadhi, le septième, et à l'éveil sur lequel débouche le Nirvikalpa Samadhi. Il était motivé par un grand besoin, pas désir. Un grand besoin, je corrige, j'avais écrit un grand désir. Un grand besoin, une grande soif, de se fondre dans l'unité, le Tao, l'un, Satchitananda, Ananda, le royaume. Si Gautama n'était pas bouddhiste, Sri Pasi, j'ai oublié le R, Sri Gautama n'était pas bouddhiste, et l'enseignement, la pratique qu'il a amené à l'éveil, n'était pas bouddhiste, puisque ça n'existait pas à l'époque. Pas plus que le maître qui l'a initié, Gosala, enfin, il y en a eu plusieurs, mais le dernier, le plus important, pas plus que le maître qui l'a initié, Gosala, n'était un bouddhiste, il n'était pas bouddhiste. Vient une citation, ouvrez les guillemets, « La méditation est contemplation ». Fermez les guillemets, Bhakti Marga, le livre de la voie, livre 2, chapitre 5, verset 3. Plusieurs centaines d'années plus tard, 450, après sa mort, des descendants de descendants de descendants de disciples qui avaient connu Bouddha, vivant et avait écouté ses sermons ou satsang, ont mis noir sur blanc les lointains souvenirs de l'enseignement du maître disparu. Cet enseignement s'était au fil du temps transformé en concept et Bouddha en Dieu. Pendant 450 ans, l'enseignement de Bouddha n'a été transmis que de bouche à oreille, par mémoire, en récitant par cœur. C'est comme si, à l'époque de Louis XIV, on avait transmis jusqu'à aujourd'hui une connaissance par la récitation de mémoire. Et puis, comme les livres, comme l'écriture des des sermons des satsangs du Bouddha a été faite à l'origine sur des supports végétaux et que le climat de l'Inde est très humide parfois et chaud, eh bien beaucoup, le 99% des écritures originelles ont disparu. On en a retrouvé, mais parce qu'elles étaient enterrées dans des vases de terre scellés. En 1800 et quelques, je crois, enfin en 1900 et quelques, je ne sais plus exactement. Très récemment, on a découvert les écrits originels des sermons de Bouddha. Que penserait Sri Gautama, à votre avis, s'il revenait aujourd'hui et suivait les enseignements délivrés dans une lamasserie du Tibet? Reconnaîtrait-il ce qu'il a vécu? Pourrait-il, en suivant cet enseignement délivré par le grand véhicule au Tibet, aller s'asseoir sous un arbre et connaître l'éveil en pratiquant la méditation enseignée dans ces lamasseries? Si vous cherchez un chemin de vie, que vous aimez faire tinter les cymbales, tourner les moulins à prière, faire brûler les encens, alors le bouddhisme vous donnera ce que vous cherchez. C'est une voie noble et belle, mais la vérité ne s'y rencontre que parce qu'elle est déjà présente en chaque homme, et quand cessent les études théoriques, quand la conscience s'approfondit. La vérité est en soi, et celui qui la trouve dans une religion ne la trouve pas grâce à la religion, mais malgré elle, parce qu'il l'avait déjà en lui. Si vous avez vraiment soif de vérité, alors ne placez pas votre espoir dans les études. Si vous voulez avoir un métier, gagner votre vie honorablement et confortablement, faites des études. Mais si vous voulez connaître, non pas l'éveil, mais la réalisation, n'allez pas étudier. Enfin, vous faites ce que vous voulez après tout. Vous avez le libre arbitre. Vous pouvez lire des livres à propos de la spiritualité, comme un passe-temps, une source d'inspiration. Mais aucun écrit n'a jamais, jamais, jamais remplacé la pratique. Il existe une réponse unique à toutes les questions. Elle ne se trouve dans aucun livre. Même le Bhakti Marga, qui chante les louanges de la vérité, ne donne aucune réponse. La seule réponse qui vaille est celle qui permet à une personne de poser sa conscience au bon endroit, en elle et de la bonne façon, et de l'y garder autant qu'elle le veut. Je change, j'avais écrit qu'elle le désire, mais le désir, ça n'a rien à voir avec le vouloir. Pour dissiper les ténèbres de l'ignorance, il faut la lumière de la connaissance. Le mot connaissance, à l'origine, ne désignait pas les connaissances intellectuelles. La racine du mot est sanscrite et elle est la même que celle du mot jnana, celui du jnana yoga, le yoga de la connaissance. Du sanskrit, ce mot est passé au perse, puis au grec, et enfin en français, au français, en passant par le latin. Le mot connaissance signifiait à l'origine sanskrite connaître et sous-entendait la gnose de Shiva, ou Shiva Jnana, c'est-à-dire vivre ce que révélait Shiva, réaliser la connaissance de Shiva. Cette connaissance de Shiva n'a rien à voir avec les connaissances livresques, théoriques, avec le savoir. Cette connaissance de Shiva est le fait de voir et de comprendre, de prendre avec soi, de réaliser. La voie spirituelle a besoin de réalisation, elle a besoin de faire. La vraie connaissance ne s'apprend pas, elle se reçoit et se vit. La révélation, l'agya et les trois piliers portent cette connaissance en germe. La pratique, l'observance fait grandir cette graine, cette même graine qu'il faut semer en faisant attention aux oiseaux et aux ronces, celle dont parlait le Christ dans le Nouveau Testament, cette graine qui donne un arbre dont les fruits sont reconnaissables. une citation de l'évangile de Jésus. Alors l'évangile de Jésus est un évangile que j'ai, je suis en train de le chercher, que j'ai écrit sans inventer une phrase, sans que ce soit sorti de ma tête. Alors, l'adresse de cet évangile de Jésus, alors en minuscule, évangile-6, evangileagnostique.blogspot.com. evangile-agnostique.blogspot.com. Ce sont les vraies paroles du Christ, selon moi, hein, selon mon discernement, ce que j'en connais, sans tout ce qu'on a ajouté après. Pour fabriquer de toutes pièces une religion, la religion catholique, chrétienne. Alors, les mots, les sermons, les versets, des phrases de Jésus qui sont cités dans cet évangile de Jésus, que j'ai appelé l'évangile de Jésus, eh bien, ne sont pas du tout trafiqués, inventés. Hein. Ce sont des mots, des phrases, des versets que vous trouvez dans les évangiles canoniques, hein, les quatre, et d'autres évangiles, hein, comme l'évangile selon Myriam de Magdala, l'évangile selon Thomas, l'évangile selon Jacques, l'évangile... etc. Alors, la citation de l'évangile de Jésus. Vous les reconnaîtrez, entre parenthèses, les vrais ou faux prophètes, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? L'évangile de Jésus, chapitre 23, verset 17. Comme vous voyez, hein, si vous prenez cette citation de l'évangile de Jésus copiée et que vous la mettez sur Google, une partie au moins, parce que, tac, c'est dans Luc, chapitre 6, verset 44, ou dans Matthieu, chapitre 7, verset 16. Donc vous pouvez faire ça avec toutes les phrases de l'évangile de Jésus, et vous les trouverez, toutes ces phrases, ces citations du Christ, vous les trouverez dans certains évangiles. Ce texte est fini, 22 minutes. Je vous remercie d'être resté jusque-là. Je sais que très peu de gens regardent ces vidéos. Elles sont longues et elles n'intéressent que les très rares personnes qui ont déjà une connexion Internet, parce que les trois quarts de mes disciples n'ont pas de connexion Internet. Et je suis obligé de communiquer avec eux par l'un d'entre eux qui a une connexion Internet et quand ils se réunissent en groupe. Et les Occidentaux... francophones, puisque j'écris en français, pas en anglais, ne sont pas intéressés par ces choses. Hein. Ça n'intéresse pas les Français, les francophones de lire, d'écouter mes contributions à la connaissance. Mais c'est pas grave, parce que je le fais dans le non-agir, vraiment dans le désintéressement. Et que vous soyez 100, 200, 2000, 10 000 à lire, à écouter mes vidéos, ça ne m'apporte ni ne m'enlève rien à ma vie par rapport à ma relation avec Satchitananda, avec la béatitude. Je vous quitte et je vous assure de toute ma sympathie. Si vous voulez m'écrire pour me demander des précisions, vous pouvez m'écrire à mon mail personnel, à mon adresse mail, qui est en un seul mot et en minuscule, lavoie.eu@gmail.com.